Bonsoir. Pourquoi 1,2 million d'électeurs ne se retrouvent pas sur la liste électorale publiée par la CEI? Où en sont la destruction et le remplacement des bulletins de vote comportant des erreurs? Comment se déroule le déploiement des kits électoraux dans les territoires insécurisés? Voici quelques questions que nous nous poserons au cours du dialogue entre Congolais de ce soir. Il convient aussi de noter qu'à 10 jours des scrutins, 19 candidats à la présidentielle soulèvent encore des problèmes techniques dans la tenue de ces élections. Pour Willy Bey à l'université de Kananga au Kasaï occidental, M. Labbé Malumalu doit bien gérer ce dossier de bulletin de vote pour ne pas donner une raison d'agir à ceux qui aimeraient mettre le feu. Toutefois, nous voulons un peu de transparence pour la paix dans notre pays. Tandis que pour Malisawa Kibundila de Kinshasa, le chien aboie, la caravane passe. Ces 19 candidats font des bruits inutiles. S'ils se sentent incapables, qu'ils s'éliminent eux-mêmes. Pour les pasteurs et aller à l'Olifa Mbandaka dans l'Équateur, que la CEI fasse attention car nous sommes fatigués avec des prolongations. Pour en parler, trois invités, Dieudonné Mirimo Mulongo, rapporteur de la Commission électorale indépendante CEI, Timothée Molekanzulama, candidat président de la République, membre du cartel D19 et président de l'Union du peuple pour la paix et l'AGAP. Enfin, Elikia Mbukolo, analyste politique et professeur à l'Institut de hautes études en sciences sociales à Paris.
Vous voulez participer à l'émission ? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
La Commission électorale indépendante CEI a reconnu samedi dernier que 1,2 million d'électeurs ne figuraient pas sur les listes électorales. Une annonce qui est venue s'ajouter à un bon nombre de problèmes liés à l'organisation des élections prévues dans 10 jours. Problème que soulèvent notamment 19 des 33 candidats présidents au prochain scrutin. Des détails avec notre confrère Freddy Lufulabo.
Au cours d'un point de presse samedi dernier à Kinshasa, le deuxième vice-président de la CEI a annoncé que son institution a perdu les noms d'1 200 000 électeurs sur la liste de près de 25 700 000 enregistrés. Pour le moment, la base de données du Centre national de traitement des données contient les fichiers de 24 440 410 électeurs. Norbert Basengezi explique cette situation du fait d'erreurs techniques et des problèmes de transmission. Selon lui, certains agents de la CEI, par impatience liée au retard de la paix de leur prime et par un civisme avaient détruit ou endommagé des CD-ROM. La même source affirme que d'autres supports ont été détruits par des intempéries, mal conservés ou endommagés lors de leur transmission à Kinshasa, rendant ainsi difficile, voire impossible leur décryptage. Après avoir fait cette annonce, la CEI se veut quand même rassurante. Elle affirme qu'elle détient des informations fiables sur tous les électeurs qui s'étaient fait enrôler et qui ne figurent pas sur les listes électorales définitives. Des listes spéciales seront ouvertes pour eux. Toutes ces personnes n'auront qu'à se présenter dans leur bureau de vote avec leur carte d'électeur pour voter, rassure la CEI. Bien entendu, ces explications ne rassurent pas 19 des 33 candidats au scrutin du 30 juillet. Ils évoquent des problèmes que pourrait créer l'ouverture de ces listes spéciales lors des dépouillements.
Monsieur Dieudonné Mirimo, bonsoir.
Bonsoir Claude.
Je rappelle que vous êtes rapporteur de la Commission électorale indépendante. Vous venez de suivre ces papiers d'analyse de notre confrère Freddy Lufulabo. Votre commentaire d'abord.
Je le félicite parce qu'il a rendu exactement ce qui a été dit lors de notre point de presse. Et donc c'est nous. Nous n'avons pas attendu que d'autres personnes le disent. Nous avons, conformément à l'article 15 des mesures d'application de la loi électorale, publié la liste des électeurs. Et à la même occasion, indiquer que nous avons une liste spéciale et une liste des omis pour les cas qui a été bien expliqué par votre confrère.
Mais il y a quand même des choses qui dérangent quand même certains Congolais dans la mesure où il y a quand même eu revue à la baisse de la liste électorale de 25 700 000. On est passé à 24 440 410. Mais est-ce que ça ne fragilise pas quand même un peu la CEI?
On n'a pas réduit à la baisse. Nous avions déjà publié la...
Du moins du côté sous le plan chiffre.
Les chiffres restent les mêmes. 25 712 550.
Mais 24 millions se retrouvent aujourd'hui sur votre liste.
La liste électorale contient 24 440 410.
Voilà.
Mais dans chaque bureau de vote, on trouvera la liste spéciale et la liste des omis. Donc avec les numéros de série des électeurs concernés par ce cas-là. Donc en réalité... On devra avoir le total d'électeurs tel que nous l'avons déjà annoncé de 25 millions.
Voilà, professeur Eli Kiambokolo, bonsoir d'abord.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous enseignez à Paris. Professeur, quel est votre regard à partir de l'étranger sur cette situation dont nous venons d'évoquer ici?
Bon, la première chose que j'aurais à dire, c'est que la situation actuelle n'est pas surprenante et ne doit pas inquiéter outre mesure. Il faut savoir que dans toutes les consultations électorales que l'on connaît dans le monde, hein, je dis bien dans le monde, au cours des 15 dernières années, toutes les élections ont comporté et comportent un certain nombre de faux pas comme celui qui vient d'être décrit. Hein, d'autant plus que les moyens techniques actuels, l'informatique, facilitent les choses mais comportent aussi des risques d'erreur. Hein, un virus, une disquette perdue. Donc, ça n'est pas une particularité congolaise que des difficultés de ce genre apparaissent. Et je ne pense pas que ce genre de difficultés doivent jeter le trouble, l'inquiétude et le discrédit sur les consultations qui viennent. Ce que la CEI a fait, et qui je crois est à mettre à son crédit, c'est le fait qu'ayant dit le nombre d'électeurs, la CEI a pris sur elle d'expliquer qu'il en manque quelques-uns sur les listes, mais vous savez comment ça se passe. Il suffira le jour des élections que les électeurs qui ont leur carte d'électeur se présentent au bureau où ils avaient été enregistrés, et j'imagine que les dispositions ont été prises pour qu'ils puissent voter. Alors, les chiffres qu'on donne en ce moment portent sur 0,5% des électeurs inscrits. Alors, ce chiffre de 0,5, à mon avis, n'est pas excessif. On peut estimer que dans les différentes élections, il y a en général, il peut y avoir une marge jusqu'à 1% environ, qui est de l'ordre de choses qui se font régulièrement. Donc, je pense que il faut être vigilant, il faut exiger que ceux qui ne sont pas inscrits participent effectivement au vote, mais il ne faut pas jeter des soupçons supplémentaires sur un processus qui, jusqu'à présent, se présente, il me semble, plutôt de manière convenable.
Monsieur Dieudonné Mirimo, vous avez prévu pour toutes ces personnes-là dont les noms ne figurent plus sur les listes électorales telles qu'enregistrées au départ par la CEI, vous avez prévu des bureaux, disons, des listes spéciales, des OMI. Comment ça va se passer concrètement?
Quand vous entrez dans le bureau de vote, auprès de l'assesseur numéro 1, il vous trouverait avec lui la liste des électeurs. Des 600 électeurs qui se trouvent dans chaque bureau de vote, et il a un registre. Le registre des OMI et le numéro de carte de série concernée par ces cas, et un registre de la liste spéciale et le numéro de carte concernée par cette liste spéciale-là. Et donc, quelqu'un qui se présente dans le bureau, on vérifie s'il n'est pas sur la liste électorale, mais il a une carte de la série de la liste des OMI ou de la liste spéciale. À ce moment-là, on le fait voter, mais on prend soin d'inscrire son nom sur la liste spéciale ou sur la liste des OMI, ce qui nous permettra de reconstituer les fichiers électoraux à l'issue de ces élections du premier tour et des législatives.
Mais M. Dieudonné Mirimo, je rappelle que vous êtes le rapporteur de la CEI, en raison du fait que ce sera la première fois que beaucoup des Congolais vont voter, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de compliquer un peu certains électeurs, d'autant plus que c'est des élections couplées, présidentielles et législatives à la fois?
Ça ne devrait pas compliquer l'électeur parce qu'effectivement, l'électeur, quand il vient, on lui explique ce qu'il a à faire. Il se présente auprès de l'assesseur qui vérifie s'il a l'encre sur son doigt, si son nom figure sur la liste des électeurs. Et ensuite, on l'oriente vers le président qui lui remet le premier bulletin de présidentiel. Il va dans l'isoloir, il marque son bulletin, il dépose dans l'urne. Ensuite, il se présente auprès du secrétaire qui lui remet le deuxième bulletin de législatif. Il sera dans l'isoloir, il vote, et après, il se présente auprès du deuxième assesseur qui va lui faire signer sur la liste de margement et il lui marque sur le doigt et à la fin, il lui remet sa carte d'électeur et il aura terminé.
Mais justement, si nous pouvons faire une petite parenthèse sur les raisons qui ont fait que, d'après le papier lu par notre confrère Foyer Lufoulabo, les raisons qui ont fait que, au fait, on ne retrouve plus 25,7 millions sur la liste telle qu'enregistrée au début, mais plutôt 24,440,410. Mais il y a aussi la gestion du personnel de la CEI. Ça, c'est une petite parenthèse là qui n'a pas été aussi très bonne et qui certains comme notre confrère l'a dit, certains employés de la CE qui ont participé à l'enregistrement sont partis avec des disquettes. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pose quand même problème aussi?
Non, nous avons eu à l'indiquer. À chaque fois que nous tenons les points de presse, nous les disons. Le problème, c'est que nous n'avons pas un système bancaire. Et pour payer l'ensemble de nos agents qui se trouvent à l'arrière-pays, nous devons déployer les agents payeurs jusque dans les villages pour les payer. Et vous savez que pour arriver à Aketi, à Bondo, à Mouchi ou à Kapanga, vous n'y arrivez pas le même jour. Et les gens sont impatients, ils ont travaillé pendant 30 jours ou 45 jours. C'est un peu tout ça. Mais sinon, c'est l'impatience de nos agents, l'incivisme et la manipulation aussi politique qui a fait qu'ils se comportent ainsi. Mais sinon, nous avons essayé de faire le maximum pour gérer nos agents. Et voilà que nous avons atteint les objectifs quand même en Arola, les 25 millions d'électeurs.
Voilà, nous avons également dans ce studio M. Timothée Moulekanzoulama. Vous êtes candidat président de la République, membre du cartel de 19 candidats. Et vous êtes président également de l'Union du Peuple pour la Paix et l'Agapé. Vous demandez justement beaucoup plus de transparence dans l'organisation des élections. Dans la première partie de cette émission, nous parlons de ce que la CEI a déclaré samedi dernier, c'est-à-dire que sur sa base de données du Centre national de traitement, le fichier ne contient plus que 24 440 410 électeurs au lieu de 25 712 552 comme enregistré au départ et annoncé par la CEI. Votre réaction en tant que membre de la CEI?
Avant de donner ma réaction, je voudrais d'abord rectifier, je ne suis pas membre du cartel des 19. Que cela soit bien clair. Nous avons reçu évidemment cette information avec consternation. Ça ne vient qu'ajouter, n'est-ce pas, dans toutes les incertitudes que nous avions au niveau du traitement des dossiers dans le cadre du processus électoral. Nous avons relevé plusieurs points d'interrogation, si je peux ainsi m'exprimer. Je crois qu'au courant de l'émission, nous aurons à pouvoir peut-être parler des questions qui se posent dans la préparation et dans l'organisation des élections. Mais il est impensable aujourd'hui qu'on puisse nous donner le nombre des disparus, si vous voulez, entre guillemets, alors que jusque maintenant, on ne nous a pas encore donné le nombre total des doublons, par exemple. Et la liste électorale n'est pas encore connue d'une manière nominale. Donc cela est une difficulté supplémentaire pour la garantie de la transparence du scrutin.
Voilà votre réaction, M. Dieudonné Mirimont.
Oui, déjà, je voudrais rappeler que depuis le 15 juillet dernier, nous avons rendu publique la liste des électeurs. Ces listes sont disponibles dans nos bureaux de liaison. Les listes nominatives, conformément à l'article 15 des mesures d'application de la loi électorale. Donc, je tiens à le préciser. Et aussi, nous ne sommes pas le premier pays à organiser les élections. Donc, ce que nous sommes en train d'observer, ça s'est passé ailleurs. Les erreurs, nous avons pris le courage d'informer l'opinion du nombre d'électeurs qui se retrouvent dans notre fichier et des électeurs que nous allons faire voter sur une liste spéciale ou sur une liste des omis. Et clairement, dans chaque bureau, devant les témoins des partis politiques, les observateurs et les journalistes, ils vont constater comment les électeurs se présentent au fur et à mesure, jusqu'à ce que tout le monde puisse voter et à passer à l'opération suivante qui est celle du dépouillement.
Monsieur Timothée Moleka, vous êtes candidat président de la République, vous avez des électeurs qui sont sûrement derrière vous, qui vont voter le 30 juillet. Est-ce que vous pensez que cette solution de la CEI peut aider vos électeurs? Les listes des gens dont les noms ne se retrouvent pas sur le fichier électronique de la CEI, mais qui ont leur carte d'électeur, ils vont aller quand même voter ce jour-là, le 30 juillet, mais ils seront placés sur des listes spéciales.
Oui, mais ça devient compliqué parce que nous savons que on nous parle d'abord des étrangers qui se sont fait enrôler, on nous parle des doublons, qu'on ne connaît pas encore le nombre, sauf peut-être pour la ville de Kinshasa. On nous parle des cartes d'électeurs qui sont achetées, qui sont en un nombre pratiquement exponentiel, finalement, qui est oublié et qui n'est pas oublié. Je Je pense que nous sommes ici dans une situation très peu claire et je mets la CEI à défi de pouvoir nous clarifier réellement cette situation. Ça fait des mois et des mois que nous parlons. Nous sommes passés par le processus du vote de la Constitution. Je crois que déjà à ce moment-là, on devait savoir s'il y avait un nombre supplémentaire ou un nombre d'oubliés. Maintenant qu'on annonce ça, qu'en est-il des résultats du référendum? Parce que cela a des conséquences. 1 400 000, 1 700 000, ça compte.
Voilà.
Qu'en est-il?
Professeur Eli Kiambokolo, je rappelle que vous êtes analyste politique et professeur à l'Institut des hautes études en sciences sociales à Paris. Je rappelle que vous intervenez au téléphone depuis Paris. Qu'est-ce que vous pensez des arguments de M. Timothée Moleka? Est-ce que cela peut avoir des incidents également sur les résultats du référendum, cette situation?
Bon, sur les résultats du référendum, dès lors que ces résultats ont été proclamés et que les recours juridiques ont été épuisés, disons, dans les délais qui sont prévus par la justice, il me semble difficile de revenir sur les résultats du référendum. En revanche, il est clair qu'on a quelques difficultés techniques par rapport aux élections. Les réserves qu'il exprime sont des réserves dont il faut tenir compte. Peut-être pas pour les législatives, il faut voir comment se retrouvent ces gens qui ont été oubliés dans les différentes circonscriptions. Ça pourrait jouer sur les présidentielles. Imaginez que au premier ou au deuxième tour, l'un des candidats soit élu avec 50,1% et l'autre avec 49,9%, dans ce cas-là, ça pourrait poser quelques petits problèmes. Mais nous avons vu qu'aux États-Unis, lors de la première élection de George Bush Jr., il y a eu des problèmes analogues. Moi, là où je me pose des questions quand même, c'est que s'il y a 600 électeurs par siège électoral, je me demande, avec ces difficultés techniques, est-ce que la seule journée du dimanche 30 suffira pour que tout le monde vote dans le temps, compte tenu des difficultés qui peuvent apparaître dans certaines circonscriptions. Il y a vraiment des problèmes techniques, mais dans le fond, je crois qu'à 10 jours des élections, il faut faire preuve de plus de vigilance, de plus de clarté au maximum, mais ça me semble très difficile que ces réserves puissent remettre en cause les élections à venir et à plus forte raison le référendum passé.
Monsieur Mirimo, rapidement, vous pouvez répondre à la question.
Oui, d'abord, je tiens à dire que nous avons annoncé le nombre de radiés de 292 353 sur l'ensemble du territoire national, de 1922 présumés étrangers, de 290 présumés militaires et de 150 présumés policiers. Les présumés étrangers, militaires et policiers, nous attendons que les cours et tribunaux puissent rendre les arrêts. Mais les 292 353 doublons sont déjà radiés et vous trouverez dans chaque bureau de vote les noms de ces radiés par bureau de vote. À ce qui concerne le référendum qui a été organisé, lorsque nous sommes allés au Parlement, nous avons indiqué qu'à cette date-là, nous n'étions pas en mesure de donner les fichiers, les nombres exacts d'électeurs parce qu'on était en train de traiter les données au niveau de notre centre national de traitement. Et donc, ils ont accepté de répartir les sièges sur base des résultats bruts.
Voilà. Nous passons à la deuxième partie de notre émission parce qu'il n'y a pas que ce premier problème que nous venons d'évoquer. Au Kasaï occidental, plus de 340 500 bulletins de vote pour les législatives ont été détruits le 12 juillet dernier par la CEI à Kamonia, dans le territoire de Tshikapa au Kasaï occidental. Selon Dieudonné, enfin, vous étiez là, le rapporteur de la CEI, ces bulletins ont été imprimés avec des erreurs. André Kambala nous fait le point de cette opération à partir de Tananga.
D'après des témoins joints par téléphone à Kamonia, c'est Dieudonné Mirimo, rapporteur général de la CEI, qui a lui-même dirigé cette opération dans la cité de Kamonia, située à une centaine de kilomètres de Tshikapa. Des milliers de bulletins de vote ont été réduits en fumée devant plusieurs personnalités et des habitants de Kamonia devant le bureau de relais de la CEI. Dieudonné Mirimo a donné l'exemple d'un bulletin imprimé avec des erreurs. C'est le cas des candidats du parti politique PDS qui se sont retrouvés sur la liste des candidats de PADES. La même source a souligné que deux bulletins de réchange étaient déjà à Kamonia dans les entrepôts de la CEI. Certains habitants de Kamonia ont pensé que cette destruction de bulletins de vote avait un rapport avec le surplus annoncé des bulletins imprimés par la CEI et qui, selon cette institution d'appui à la démocratie, sont déjà distribués dans les différents bureaux de vote. Et ce, au regard de l'exigence de certains candidats à la présidentielle et de politiciens de l'opposition qui considèrent ce surplus comme un signe de fraude électorale. D'autant plus, rapportent ces personnes, les bulletins de réchange n'ont pas été présentés officiellement. Le rapporteur général a réagi disant que cette destruction n'avait rien à voir avec des bulletins de surplus qui serviraient les électeurs qui pouvaient voter par dérogation selon la loi. Dieudonné Mirimo a conclu que l'opération de destruction des bulletins mal imprimés s'effectuerait également dans d'autres circonscriptions électorales. Il a en passant cité Bafassiende dans la province orientale, Mouchi et Kaimba dans le Bandundu, ainsi que la première, deuxième et troisième circonscription de la ville de Kinshasa.
Dieudonné Mirimo, je reviens à vous. Venez de suivre ce papier de notre confrère André Kambala, qui est sur place à Kananga. Mais comment certains bulletins de vote, à quelques jours des élections, on retrouve des bulletins de vote imprimés avec des erreurs?
Non, pas à quelques jours. C'est-à-dire on a constaté les erreurs pendant que les fournisseurs nous avaient déjà livré les bulletins.
Pourquoi pas avant? Pourquoi est-ce que vous n'aviez pas constaté les erreurs avant alors que les bulletins étaient encore en impression en Afrique du Sud?
Non, c'est à la livraison que nous constatons, parce qu'avant d'imprimer les bulletins, nous donnons les bons à tirer. Mais quand il a livré, nous avons constaté qu'il y avait, parce que nous avons invité les candidats à vérifier s'ils figuraient sur la liste de leur parti politique avec les logos et avec les noms. Malheureusement, il y a certains candidats qui ne se sont pas présentés. Ils se sont présentés après, et c'est ainsi que nous avons constaté l'erreur. L'unique manière de le faire, c'était de procéder à la destruction de ces bulletins qui étaient imprimés avec erreur, que de continuer à les garder. Mais nous avions déjà remplacé dans toutes les circonscriptions concernées par les bulletins qui seront utilisés le 30 juillet 2006.
Mais certains Congolais émettent des doutes. Ils disent que peut-être qu'il y a tentative de fraude électorale, et peut-être que le fait de détruire ces bulletins imprimés avec erreur rime avec le surplus de bulletins de vote qu'ont dénoncé même certains partis politiques.
Au moins, votre confrère a été clair. C'est moi-même qui l'ai fait à Kamonia. Demain, je vais à Kananga pour détruire le surplus de ce même bulletin, parce que pour la circonscription de Kamonia, 493 350 bulletins étaient concernés. Mais on a détruit 346. Le surplus se trouve aux entrepôts de la Monique à Kananga. On va le faire. Et on le fait publiquement devant toutes les autorités. Donc, ce n'est pas une chose à cacher.
Timothée Amoleka, votre lecture sur cette deuxième situation, ce deuxième problème, en fait, à quelques jours de la tenue des élections.
Oui, je voudrais comprendre, parce que le rapporteur a dit tout à l'heure que cette destruction ne concerne pas le surplus. Alors que ces bulletins-là qui ont été livrés avec erreur, leur nombre est compris dans le nombre total des 30 300 000 bulletins, je pense. Alors si on a détruit, ça veut dire que soit on va les remplacer, je pense qu'il est nécessaire qu'on les remplace puisqu'ils étaient défectueux ou bien ils avaient des erreurs, mais ils sont compris dans le lot global. Donc, est-ce qu'on ne considérerait pas que c'est déjà une partie de la destruction d'une quantité qui serait la quantité de surplus?
Oui, mais c'est Dieudonné Mirimo, je ne sais pas.
Nous avons effectivement commandé 30 375 760 bulletins, parmi lesquels il y a ces bulletins qui sont en train d'être détruits ici et là. Mais aussitôt que nous avons constaté l'erreur, nous avons fait imprimer les bons bulletins pour remplacer les bulletins qui sont à détruire. Donc, ça s'annule.
Mais comment rassurer les électeurs? Les électeurs qu'il
n'y
aura pas de bulletins en surplus, à part ce que vous avez détruit peut-être. Comment vous allez les rassurer?
L'unique manière de le faire, nous avons indiqué que le matin à l'ouverture, devant les témoins des partis politiques, des candidats ou des regroupements, les journalistes et les observateurs, le président du bureau procède à la vérification du matériel, y compris les carnets. 5 carnets de bulletins par bureau de vote. On consigne ça dans le PV. avec les numéros de série. Et à la fin de l'opération, on va vérifier le nombre de carnets qui ont été utilisés et les carnets non utilisés. Et il y aura un PV où on va consigner toutes ces informations-là et les témoins des partis politiques pourront signer ce PV. Donc c'est l'unique manière de vérifier à l'ouverture et à la clôture.
Monsieur Dieudonné Mirimo, il y a Carole Mbaya à Kananga qui dit ceci. Pourquoi la CEI ne veut pas régler toutes ces questions qui pourront compromettre les élections et plonger le pays dans un chaos?
Lesquelles ce sont les questions que nous sommes en train de régler, effectivement.
Voilà. Professeur, vous intervenez depuis Paris. Quel est votre regard sur ce deuxième problème que rencontre la CEI il y a quelques 10 jours des élections?
Bon, c'est un problème, un autre problème technique qui, c'est vrai, est un peu compliqué, parce que vu de loin, ça donne l'impression d'une mêlée de football ou de rugby où le ballon se perd un peu. La question que M. Mollet a demandé, est-ce que les bulletins détruits, les erreurs vont être effectivement rectifiées? Je pense que c'est une question importante pour que les électeurs soient confrontés à une situation claire, transparente, et qu'il n'y ait pas des manquements le jour J. Bon, la CEI donne des assurances et j'ai l'impression qu'une question comme celle-là, on ne pourra la juger que sur pièce. Moi, ce que je constate, c'est quand même le fait que, au Congo, chez nous, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de soupçons. Ces élections sont tellement importantes que tout le monde est attentif au moindre faux pas. Ça montre quand même que le pays est assez mûr et majeur, que les gens veulent effectivement des élections et que pour ces élections importantes, les gens sont très très attentifs à la moindre indiscrétion, à la moindre faute qui risquerait de compromettre les résultats. Ça, avant les élections, je pense que c'est un point fort que nous devons retenir. On doit retenir aussi le fait que les politiciens ont tout à fait raison d'exiger que toute la clarté soit faite dans l'affaire, et ça n'est qu'une première, hein, je dirais, mais on peut craindre que dans quelques circonscriptions où il y aura cumul de la première difficulté que nous avons vue ensemble, donc ces gens qui ne savent pas s'ils se retrouveront le jour du vote, ces deuxièmes difficultés, peut-être quelques autres, on peut s'attendre à des batailles juridiques et politiques serrées au lendemain du 30 juillet.
Professeur Eliki Ambokolo, M. Yvon Ilunga Ambujimaï dit ceci, la CEI avec toutes ses fautes risque d'amener notre pays après les élections dans l'impasse. Vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion?
Non, je pense que c'est une opinion très très exagérée, parce que moi j'ai été au pays au moment où on procédait à l'enregistrement des électeurs, au moment du référendum, dans plusieurs étapes du travail que la CEI a fait. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que la CEI a fait à la fois un travail de statistique, un travail de caractère juridique, un travail de caractère administratif. Donc elle a pris sur elle à la fois le travail du ministère de l'Intérieur, le travail de spécialistes du droit. C'est un travail qui est tout à fait colossal. Alors on pourrait vouloir qu'on lui donne la note de 100 sur 100 si elle arrivait à une note de 95 sur 100. Je pense que la perfection dans ce genre de choses, à mon avis, dans toutes les élections que nous avons connues, n'est pas de ce monde. Il faut qu'il y ait le minimum de fautes possibles pour que des suspicions ne soient pas portées sur le résultat. Je crois que nous, les Congolais, nous avons un peu la faute de trop vouloir regarder ce qui ne marche pas et du coup de ne pas voir ce qui marche. L'exemple de la CEI du Congo est un exemple tout à fait porteur pour d'autres pays. Oui, il faut l'encourager dans ce sens et je serai d'avis que on ne jette pas trop le bébé avec l'eau du bain avec lequel on vient de laver.
Exactement. Mais il y a aussi un troisième problème, il y a aussi le problème sécuritaire. Le déploiement effectif du matériel électoral n'a commencé qu'hier mercredi sur plusieurs axes du Nord Kivu. Il était pourtant censé débuter il y a 5 jours. Les responsables de la logistique évoquent à la CEI un problème de procédure dans l'acheminement du matériel à partir des bureaux de liaison vers le bureau de vote. En même temps, le déploiement des policiers formés pour sécuriser justement ces élections dans différents secteurs se fait toujours attendre. Le point avec notre confrère Charles Ntirisha de Prigoma.
Ils sont nombreux, ceux-là, qui pensaient que le déploiement du matériel électoral ne se fera pas à cause de l'insécurité dans plusieurs localités investies par des bandes armées dont les FDLR. Il y a quelques jours, certains candidats à la députation nationale se sont fait attaquer dans certains secteurs comme dans le Massissi. Aujourd'hui, la CEI évoque plutôt un problème logistique alors qu'il ne reste que 4 jours pour que les 4321 bureaux de vote du Nord Kivu soient entièrement fournis. Monsieur Bazungu Kichengele, logisticien de la CEI Nord Kivu.
Le déploiement se fait par les logisticiens. Ce retard est causé par le fait que les fonds destinés au déploiement ont été mis au CCV, les chefs des centres de vote, qui n'ont pas vraiment la maîtrise du terrain. D'ailleurs, ce sont des nouveaux engagés, ce ne sont pas des logisticiens. Il nous fallait un temps pour essayer de voir comment les organiser et commencer le déploiement. Sinon, pour le reste, nous espérons et nous sommes optimistes que, comme nous essayons de les organiser, les matériels pourront arriver au temps prévu dans les centres de vote.
Le déploiement des kits sur 4 des 5 axes que compte le territoire de Massissi n'a commencé qu'hier mercredi. Seul un axe a connu ce déploiement depuis le 15 juillet comme prévu. Dans le territoire de Beni, le bureau relais de Oicha n'a lui aussi reçu son matériel complet qu'hier. Et selon la CEI, pour le bureau de liaison de Walikale, seuls 3 axes sur les 9 que compte ce territoire n'ont pu être servis le 15 juillet. Les responsables n'ont cependant pas encore déploré aucun incident sécuritaire sur leur parcours. Pendant ce temps, l'envoi dans différentes localités des policiers récemment formés sur la sécurisation des opérations des élections se fait toujours attendre. Selon l'inspection provinciale de la police au Nord Kivu, leur déploiement est imminent. La priorité a plutôt été l'acheminement du matériel à utiliser par les policiers sur le terrain, ajoute-t-elle. Charles Ndirgicha, Goma, Radio Okapi.
Voilà, monsieur Timothée Moulekanzulama, je rappelle que vous êtes candidat président de la République et président de l'Union du Peuple pour la Paix et l'AGAPE. Votre réaction face à certains problèmes d'ordre sécuritaire, on voit qu'il y a des coins dans notre pays qui sont encore insécurisés, mais la CEI déploie quand même le matériel, quand bien même la police ne suit pas toujours votre réaction.
Bien, il est heureux de constater que le déploiement se fait malgré quelques dangers que nous avons connus il y a quelques jours, que vous avez rappelé ici. Nous souhaitons tous que ce déploiement puisse se poursuivre dans tous les axes et que les forces qui sont chargées d'assurer la sécurité et des personnes, et des électeurs, et des candidats, et du matériel puissent être mises en place de manière à ce que les choses se passent comme il se doit. Mais en matière de sécurité, je voudrais dire qu'on met beaucoup d'accent sur l'Est, ce qui peut se comprendre parce que c'est une zone qui est encore dans l'insécurité, l'Ituri, etc. Mais il y a d'autres zones à l'Ouest où il faut tenir compte qu'il existe encore des milices, n'est-ce pas, des anciennes forces rebelles, et qui peuvent...
Lesquelles hein,
ben notamment dans l'équateur nord, il existe encore des milices, il ne faut pas se le cacher, et on a besoin tous d'avoir cette sécurisation. Là, c'est sur le plan des personnes, sur le plan des candidats, sur le plan des électeurs.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour certaines zones à l'ouest ou à l'est du pays qui sont encore insécurisées pour que les élections se passent vraiment normalement, dans une certaine normalité?
Je pense que dans le partage, si vous voulez, dans la réflexion, il faut tenir compte peut-être de toutes toutes les forces en présence, de toutes les forces politiques aussi en présence pour essayer, n'est-ce pas, de trouver des solutions pour les problèmes qui se posent par-ci par-là. Aujourd'hui, dans certains coins de la République, à l'ouest comme à l'est, il n'est pas aisé, n'est-ce pas, de faire même la campagne par rapport à d'autres qui ont des forces sur place. Je pense que ce problème doit être, on doit en tenir compte quand on parle de déploiement des forces pour la sécurisation de tout le monde. On parle beaucoup de l'Est, je le comprends, je le dis encore bien, parce que là, il y a vraiment des combats, quelquefois, et il y a des problèmes. Mais ici, vous avez des zones où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat, mais où des personnes ont des milices qui peuvent intimider, n'est-ce pas, d'autres candidats et d'autres électeurs.
Est-ce que vous, en tant que candidat président de la République, vous vous sentez libre d'aller battre campagne dans n'importe quelle partie du pays? Vous vous sentez sécurisé?
Je me sens libre, mais je ne me sens pas nécessairement sécurisé partout.
Mais qu'est-ce que vous attendez de l'État pour vous, particulièrement les candidats présidents de la République, pour être sécurisés?
Écoutez, je crois que la loi est claire. Il faut que tous les candidats soient sécurisés de la même manière.
Ce n'est pas le cas?
Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Dans quel sens?
Mais je pense que vous pouvez regarder ce qui se passe. Les uns se promènent avec tous les moyens, la puissance que leur donne l'État. D'autres se promènent à main nue. Je crois que c'est une question qui trouve sa réponse dans ce que nous voyons.
Voilà, Monsieur Dieudonné Mirimo, il y a un auditeur anonyme qui dit ceci: que fera la CEI pour les coins non sécurisés du pays à 10 jours des élections et que propose la CEI face aux actes contraires à la loi électorale? D'abord, face aux coins sécurisés, à certains coins insécurisés du pays, notamment dans l'Ituri.
C'est la police nationale congolaise qui a reçu la mission d'assurer la sécurisation des élections et c'est à elle de vérifier là où elle a besoin d'être appuyée par les FARDC, la MONUC ou les forces de l'Union européenne, de faire la demande pour se faire appuyer et permettre donc que ça soit sécurisé et permettre aux électeurs de pouvoir voter comme les autres.
Mais justement, dans ce reportage de notre confrère de Goma, Charles Ntirisha, il dit que vos matériels, les kits électoraux sont en train d'être déployés, mais la police ne suit pas. Est-ce que vous ne craignez pas aussi pour vos matériels?
C'est vrai, nous craignons, c'est le moment plutôt de devoir interpeller la police, de pouvoir faire son travail, de remplir sa mission pour pouvoir sécuriser non seulement le matériel, mais également le personnel.
Mais vous aviez aussi promis, M. Dieudonné Mirimo, au niveau de la CEI, que le matériel allait déjà commencer à être déployé à partir du 15 juillet. Mais dans ce reportage, on voit que ça a quand même pris du temps. Qu'est-ce qui vous a empêché de déployer tous les kits électoraux à partir du 15 juillet, comme vous l'aviez promis? Ce sont des problèmes de sécurité?
Le plan logistique prévoyait effectivement le déploiement du matériel électoral à partir du 15 juillet par les chefs des centres de vote qui devaient terminer leur formation le 15 et convoyer le matériel de leur centre respectifs. À plusieurs endroits, on a pu effectivement déployer le matériel à partir du 15, mais à d'autres endroits, comme c'est le cas au Nord Kivu, on vous indique qu'ils ont commencé il y a 2-3 jours, mais sinon, c'est 10 jours qui ont été prévus pour le déploiement tertiaire du matériel vers le centre de vote.
Professeur Elikia Mbokolo, est-ce que vous pensez que sur le plan sécuritaire, il est possible d'organiser les élections au 30 juillet?
Disons que dans la plupart des territoires, oui, mais ce que M. Moleka a dit est tout à fait vrai, parce qu'on a tendance à trop se focaliser sur certains territoires de l'Est. Moi, je peux attester que dans certaines régions de l'Ouest, en particulier dans la province de l'Équateur, j'ai pu voir sur place qu'il y a en effet des restes de bandes armées. Et si j'étais candidat, je ne suis pas sûr que je me risquerais à aller dans ces régions-là, parce qu'il y a des actes d'intimidation sur les candidats, peut-être aussi le jour venu sur les électeurs. Donc ça, c'est vraiment une question importante et il va falloir absolument que les forces de l'ordre, telles qu'on les a prévues, hein, la police nationale, les forces armées et puis les contingents extérieurs, fassent en sorte que cette sécurité revienne, pas seulement le 30 juillet, mais au moins les jours qui viennent pour que tout le monde puisse aller partout, notamment les candidats présidentiels, pour exposer leur point de vue, leur programme devant tous les électeurs. Là, il y a évidemment une inégalité des candidats face aux électeurs, qui est quelque chose d'assez préjudiciable et qui, à mon avis, est peut-être le gros problème politique que notre pays connaît aujourd'hui. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique réellement.
Professeur Elikia Mbokolo, est-ce que vous pensez que ces problèmes sécuritaires ou d'autres problèmes pourraient remettre en cause les élections?
Non, peut-être pas. Je ne pense pas. Je crois quand même qu'on l'a vu notamment au moment du référendum. Il me semble quand même que si les conditions de secret dans l'isoloir sont réellement respectées, je crois que les électeurs sont assez mûrs et surtout très désireux d'en finir avec cette situation de ni guerre, ni paix, de transition qui n'en finit pas. Les gens ont véritablement besoin d'y voir clair et je pense qu'ils voteront en conscience le 30 juillet, même si, encore une fois, l'égalité des candidats, surtout au niveau de la présidentielle, n'est pas tout à fait respectée dans cette campagne.
Monsieur Timothée Moleka, est-ce que vous êtes du même avis?
Je ne suis pas exactement du même avis que le professeur. Je pense qu'il ne faut pas comparer les élections que nous allons avoir avec ce que nous avons connu pour le cas de la Constitution. Ici, il y a des intérêts politiques beaucoup plus prononcés. Ici, ce sont des personnes qui doivent être élues. Donc, ces personnes-là, ce sont des vies humaines. Donc, la bataille, les stratégies, les coups bas seront autres que pour le premier cas. Je crois que le référendum est une chose, mais les élections ici, les personnes, la présidentielle ou bien les législatives, c'est autre chose.
Est-ce en tant que candidat président de la République, tous ces problèmes que nous venons d'évoquer dans, au cours de l'émission, les problèmes d'ordre technique, sécuritaire, pourraient remettre en cause la crédibilité de ces élections?
Ça pourrait remettre en cause. Je donne un exemple. Vous avez, par exemple, un territoire qui est contrôlé quand même d'une manière sécuritaire par des milices. Vous savez que tout est permis, hein. Voilà. Tout est permis à ce moment-là.
Voilà. Bonsoir Nadine Foula.
Bonsoir Claude Kien.
Nos auditeurs ont suivi l'émission. Et comment réagissent-ils par rapport aux propos de nos invités?
Oui, commençons par Marabout qui nous écrit à partir des Bounia. Il estime que de l'Ituri, la population craint les opérations de vote car l'insécurité est causée par des groupes armés qui sont dans la zone voisine de bureaux de vote. Didier Moulamba Ambandaka dit, la destruction de bulletins de vote n'est-elle pas déficiente pour les électeurs? Est-il prévu une nouvelle impression? Mande Bamba de Boutembo demande, quelle garantie peut nous faire la CEI qu'en dépit de toutes ces tractations sur le bulletin de vote, il n'y aura pas de fraude aux élections? Restons toujours à Boutembo où Carlos Benga trouve qu'il serait trop pessimiste de ne considérer que le mauvais côté et difficulté de la CEI. Maria Chipumbe à Kaoulou dit, au bureau sous-régional de la CEI à Chimboulou, au Kasaï occidental, plusieurs noms imprimés des membres de la circonscription électorale de Kaoulou sont barrés et remplacés au stylo sans raison. Henri de Bounia dit, qu'est-ce que la CEI prévoit pour ceux qui s'étaient enrôlés dans le milieu où ils s'étaient déplacés à cause de la guerre et qui ont regagné leur milieu d'origine?
Voilà, Monsieur Dieu de Noémirim, votre réaction par rapport à l'opinion des...
D'abord, nous avons déjà indiqué que chacun ne pourra voter que là où il s'est fait enrôler, en dehors des cas prévus par l'article 59 de la loi, donc la dérogation.
Et ceux qui se sont déplacés?
Même ceux qui se sont déplacés, ils n'ont qu'à retourner là où ils se sont fait enrôler.
Mais s'il y a insécurité?
S'il y a insécurité, là, c'est pour cela que j'ai dit que la police devra remplir sa mission de sécuriser non seulement le matériel, le personnel, ainsi que les électeurs et les candidats, bien entendu.
Professeur Eli Kiambokolo, votre réaction par rapport aux opinions de nos auditeurs. En une minute, s'il vous plaît.
Ben d'accord, les électeurs sont très lucides, très conscients, ils se posent des questions. Ben, il faut espérer que la journée du 30 juillet... donnera des réponses positives, à condition, encore une fois, que les forces de l'ordre fassent leur travail, hein, de manière aussi rigoureuse que possible. Mais je reste quand même relativement optimiste sur le fait que ces élections auront lieu. Il y aura certainement des bavures, mais comptons que tout cela ne remette pas de manière fondamentale les résultats en question, parce que nous serons très mal partis pour l'avenir.
Monsieur Timothée Mondeka.
Bien, moi je félicite les auditeurs pour leur clairvoyance et pour leur intérêt qu'ils ont sur la question. Je pense que toutes les questions posées ici sont pertinentes. Mais je pense que pendant l'émission, nous avons un peu passé en aveugle un problème soulevé par le professeur et qui me tient beaucoup à cœur, c'est le taux de participation par rapport au programme prévu, une cinquantaine de milliers de bureaux de vote avec 600 à 500 électeurs au maximum, le temps de vote. Bon, dans les calculs, ça nous donne à peu près entre 25 à 30% de participation dès le départ. Alors là, je pense que c'est un problème qu'on pourrait résoudre. Il faudrait que la CEI puisse nous fixer si on maintient que les élections se passent en une journée ou bien s'il y aura...
Mais vous y croyez aux élections, au 30 juillet?
Mais écoutez, je suis candidat, ça veut dire que j'y crois.
Voilà.
Oui, Claude, avant de terminer, je tiens à dire effectivement que les élections vont se tenir en un seul jour, même s'il faut aller jusqu'au matin pour terminer à faire voter tout le monde.
Merci. C'est la fin de cette émission. Elle sera rediffusée demain à 4h45 heure de Kinshasa. Retrouvez là également sur www.radiocapi.net et en onde court sur 11 690 kHz. Je vous rappelle que demain, nous parlerons de deux Kassai, des enjeux électoraux sur les deux Kassai. Au revoir et à demain.